marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Frédéric Martel, Vatican, Sodoma, une bombe à fragmentation.
Le pape ne peut pas gouverner tout le temps. Il délègue à une bureaucratie qui a les défauts de toutes les bureaucraties. Ce beau système ne marcherait que s'il était animé par des anges, ce que nos gens ne sont pas. Le résultat, c'est que l'on canonise des personnages douteux, que les congrégations les plus étranges et parfois les plus abjectes ne sont pas simplement dissoutes, ni les criminels renvoyés, que les fauteurs de scandales sont couverts ou maintenus en place au-delà du raisonnable. Bref, que les fautes sont sans conséquence, ce qui est tout de même un comble s'agissant d'un ensemble de personnes si promptes à faire la leçon au pauvre monde. On les imagine à présent sans peine entrant dans l'éternité, une main sur l'encyclique anticontraceptive et l'autre sur le derrière d'un séminariste.
Écrivain François Sureau, en dernière page du journal, tenez-vous bien, du journal La Croix. Certes, l'Église catholique au XXe siècle a commis des gestes plus déplacés. On se souvient de la colère de Bernanos face aux évêques espagnols, levant le bras pour faire le salut fasciste, avec les suites que l'on connaît, jusqu'à la mort. Ou bien du saisissement du cardinal Etchegaray quand il comprit que les prêtres rwandais avaient prêté la main jusque dans leur lieu de culte au génocide. Mais la crise présente à ceci d'inédit qu'elle joue sur tous les registres et qu'elle touche l'opinion dans le monde entier. Le livre de Frédéric Martel, qui vient y participer, est d'ailleurs un livre global. L'auteur a beaucoup séjourné à Rome et il s'est rendu dans une trentaine de pays. Il a rencontré parfois fréquemment 41 cardinaux, 52 évêques, 45 nonces qu'il a dûment enregistrés. Et ceci sans compter 200 prêtres et séminaristes et une cascade d'informateurs. Sa thèse, pour le dire simplement, est que depuis une cinquantaine d'années, le Vatican, qui s'accommodait très bien des inclinations homophiles discrètes de beaucoup de ses habitants, s'est homosexualisé à mesure que la révolution des mœurs laissait libre cours à la diversité des comportements. Mais paradoxe, dans le gouvernement de l'Église, ce sont souvent les homosexuels eux-mêmes qui ont multiplié les interdits, voulant peut-être remonter leur pente, la dévalant, souvent, se cachant, sans se cacher, ils habitaient, non sans délice, un labyrinthe dont ils croyaient être seuls à garder les secrets, sans voir que dans une grande partie du monde, l'homosexualité n'est plus un délit, c'est l'homophobie qu'il est devenu. 15 traductions de Sodoma ont été réalisées ou signées. Le livre a déjà trouvé son chemin dans une trentaine de pays. Il paraît le 3 avril en Pologne. On attend particulièrement les réactions dans la patrie de Jean-Paul II, dont le pontificat est étrillé. Inscrit un peu partout au top des best-sellers, Sodoma est entré dans celui du New York Times qui a bien défini son effet. C'est une bombe à fragmentation.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Frédéric Martel, bonjour.
Bonjour.
J'ai oublié de dire que l'opérateur numéro un, avec un éditeur, Jean-Luc Barré, de votre livre, c'est Robert Laffont. Alors comment vous définir, parce qu'on me dit, c'est qui ce Frédéric Martel? Les gens ne savent pas tous que vous êtes producteur à France Culture. Soft Power, James Allison, qui a eu à connaître de votre livre, dit, Frédéric Martel a écrit plus d'un livre sur la question gay.
Absolument. James Allison est prêtre, d'ailleurs théologien, important.
Une histoire homosexuelle française, global gay. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit encore de vous? Il est plutôt connu comme centre-gauche pour avoir participé à des cabinets ministériels.
Absolument. La gauche catho, on appelle ça. La gauche, la deuxième gauche, la gauche catholique.
Oui, mais enfin, vous êtes catholique d'origine, mais vous avez
de naissance,
oublié le...
Je ne suis pas esclave de mon baptême,
vous aviez
comme dit Rimbaud.
Le catholicisme, comme dit Rimbaud. Alors voilà, on présente Martel comme Tintin qui va au Vatican. Enfin, Tintin, c'est davantage asexué que vous.
Et encore que sur Tintin, vous savez, on pourrait en parler. Mais... Enfin, ça fait 600 pages quand même. Voilà,
vous avez
gros.
Cité tout de suite Rimbaud, qui est comme une sorte de fil.
Oui, en fait, c'est un livre dont l'équation est complexe. Comment écrire sur un sujet dont on ne peut pas parler? Et donc, du coup, il faut inventer un style. Et c'est pour ça que j'ai réussi à faire le livre, un style notamment assez littéraire, avec des figures, beaucoup de descriptions. Et Rimbaud est un fil conducteur, comme d'autres. Shakespeare, dans, au fond, la découverte par Hamlet du fait que quand on parle trop de quelque chose, quand on est trop obsédé, en l'occurrence par l'homosexualité, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Phrase célèbre d'Hamlet, acte 3. Je pense, et voilà, c'est un peu ça le secret du Vatican. Au plus on est homophobe, au plus on est homosexuel.
Vous me rassurez en citant après Rimbaud, Shakespeare, parce que je trouvais que ça faisait un peu global English dans le style, mais vous ne vous en défendez pas d'ailleurs.
Bah, mes références, c'est quand même Jacques Maritain, André Gide, Jean Cocteau, tout ça est très français. Certains m'ont reproché d'être trop français dans ce livre.
Voilà. Alors, Maritain et Gide, tiens, on va commencer par là. Puisque Maritain, grand écrivain catholique français qui a écrit pour la France libre depuis les États-Unis pendant la guerre, qui a été ambassadeur de France auprès du Saint-Siège après les grands scandales qu'a connu l'Église de France au long de l'occupation. Il est comme un code, dites-vous, qui permettrait de lire un moment homophile du Vatican.
Au fond, c'est ce que j'appelle le code Maritain. Et quand on interroge des cardinaux, ce qui a été mon cas longuement, on voit le lien très fort qu'ils ont avec Maritain. Et Maritain cache un secret. Alors ni vous ni moi ne savons si Maritain était homosexuel, et notamment dans sa relation avec le fameux Ernest Psychiari dont il est objectivement amoureux quand il est jeune, entre 16, 20, 22 ans. Que s'est-il passé à ce moment-là? Personne ne le saura. Donc on peut faire des conjonctures.
Par contre, il n'y a que Dieu qui connaisse les secrets de toute une existence, vous savez.
Et peut-être Raïssa, sa femme avec laquelle il signe un pacte de chasteté, il n'aura pas d'enfant. Et on peut penser qu'il y a une forme d'homophilie, ce qu'on pourrait appeler une sorte de relation d'amour, d'amitié, qu'il va entretenir d'abord avec Psychiari, mais aussi avec tout un tas d'autres figures.
D'abord, vous avez cité Cocteau et son livre blanc.
Oui, ce qui est fascinant, c'est comment Maritain va être obsédé par la question homosexuelle. Il va essayer de faire en sorte que Gide ne publie pas son Coridon, il va le voir. Il fait la même chose avec Cocteau pour le livre blanc. Il entretient une relation incroyable avec François Mauriac, avec Maurice Saxe, avec Julien Green, avec Radiguet, avec René Crevel, avec Max Jacob. Bref, il est entouré d'homosexuels. Et dans chaque fois, il essaye de contrecarrer l'homosexualité des autres. Peut-être, sans doute, c'est mon hypothèse, pour conjurer la sienne.
Mais vous dites relation incroyable, parce que pour quelqu'un d'aujourd'hui, de votre âge, Frédéric Martel, c'est invraisemblable que l'homosexualité ne se pratique pas tôt ou tard, mais l'homophilie la contrôlait, la limitait. Alors vous arrivez...
Il n'y a rien d'incompatible, Jean Lebrun, entre le fait d'être homosexuel, de se marier, d'être chaste avec sa femme, et peut-être de pratiquer ou pas. Moi, je ne sais pas si Jacques Maritain a un jour eu des actes homosexuels. Ce que j'ai découvert, et ça vient de la biographie de Jean-Luc Barré, mon éditeur, s'appelle Raïssa et Jacques Maritain, chez Perrin, biographie de référence, ce sont les lettres, la correspondance avec Psychiari. Et juste, j'en lis trois extraits. « Je t'aime, je vis, je pense à toi. C'est en toi seul que je vis. Tu es l'Apollon. Veux-tu partir avec moi vers l'Orient? Nous serons seuls dans un désert. Je t'aime, je t'embrasse. Tes lettres, mon bijou, me font plaisir, un plaisir infini. Je les relis sans cesse. » Ce sont des lettres d'amant. Et cette correspondance, mystérieusement, n'a jamais été publiée. On l'a lue, mais elle est encore, c'est la seule correspondance qui n'est pas publiée, elle devrait l'être un jour, et je pense que la vérité va enfin éclater.
Oh, l'historien Fourcade dit, il y a beaucoup d'autres lettres, il dit que les carnets intimes de Maritain sont en cours de publication aussi. On laisse ça en suspens. Vous arrivez avec le petit livre blanc de Cocteau, donc qui est un livre qui était paru caché.
D'abord, anonyme.
Comment vous dites en anglais?
Anonyme.
On dit pas caché, on dit...
Closeted.
Oui. Et vous distribuez ça à vos interlocuteurs qui sont tous d'un certain âge.
C'est pas ce livre-là que je distribue.
Ah bon,
c'est
le livre blanc dont vous parlez, c'est un autre livre.
C'est mystérieux et j'en garde le secret.
Non, je me disais, c'est le livre blanc de Cocteau. Alors, vos interlocuteurs, les prélats, sont d'un certain âge et puis ils pouvaient, pour un grand nombre d'entre eux, vivre dans l'inclination homophile tranquillement. Et puis, la libération des mœurs est intervenue dans... de l'extérieur, et vous expliquez que deux courbes se sont croisées dans les 50 dernières années.
Oui, en fait, c'est ça le secret. Quand on est au Vatican, on est avec des gens qui ont les cardinaux 75, 80, 85. J'en ai interviewé plusieurs qui avaient 95 ans. Et donc, on n'est pas, pour les comprendre, c'est pas l'homosexualité de 2019, celle qu'on connaît ici à France Inter. C'est celle des années 50. À France Inter ou ailleurs en France. Je veux dire, celle d'aujourd'hui.
Je croyais qu'il y avait un secret à France Inter.
En 1950, ils ont 20 ans. En 1940, ils ont 20 ans. Et ils sont restés, je dirais, dans cette homosexualité des années 50, homosexualité du refus, du déni, de la honte, du mariage blanc pour les hétérosexuels, et aussi, au fond, d'une certaine homophobie. Et c'est ce qui permet de les comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour ces prêtres et pour ces cardinaux. C'est qu'au fond, ils ont 50 ans de retard, ils sont restés bloqués dans un monde d'avant la libération sexuelle. Et c'est ce qui explique l'explosion, littéralement, de l'Église aujourd'hui, que ce soit bien sûr dans les abus sexuels, mais c'est tout autre chose, mais aussi tout simplement dans le déni de l'homosexualité, alors qu'ils sont, pour beaucoup d'entre eux, homosexuels et aujourd'hui pratiquants.
La prédation sexuelle, les abus sexuels, c'est autre chose, sauf que quand on dissimule soi-même, en cachant, sans vraiment se cacher, en prenant parfois des risques, on craint que ceux qui ont beaucoup plus encore à dissimuler ne vous mettent en péril.
Absolument, c'est l'une des clés. Et la clé de ce qu'on appelle le cover-up en anglais, c'est-à-dire au fond la couverture, la protection qu'un certain nombre d'abuseurs ont bénéficié parce que la plupart des évêques concernés qui les ont protégés sont eux-mêmes en des choses à se cacher, sont homosexuels. Et là, il y a beaucoup de secrets homosexuels qui expliquent en fait des entourages homosexuels compris, qui explique pour une part l'affaire Barbarin, qui explique le fonctionnement de l'archevêché de Paris, qui explique la conférence épiscopale française. Et c'est la clé, et c'est pour ça que ce livre, enfin, d'une certaine manière, suscite tant de réactions et aussi d'enthousiasme. C'est parce qu'il vient expliquer ce que, au fond, les gens avaient compris, leur manquait la clé.
La clé, mais vous dites aussi pour une part, parce qu'il n'y a jamais d'explication
c'est très complexe,
suffisante pour être intégrale. Ne cherchez pas d'index, il n'y en a pas.
C'est voulu.
c'est voulu, parce qu'il ne faut pas lire ce livre de la main gauche. Et puis, vous procédez par énonciation discrète, glissement progressif du désir, allusion, vous recomposez le jeu, ce qui pense que on peut mettre des noms sous les pseudonymes, ils s'égareront parce que vous les attirez vers de fausses pistes. Moi, j'aimerais que vous nous présentiez un ou deux cas de personnes mortes. Il n'y a donc pas à faire intervenir à leur sujet votre batterie de 14 ou 15 avocats, mais certains de ces cas sont surprenants. Il y a un peu plus de 10 ans, nous avons trouvé ce son sur TV Gloria. Vous savez que TV Gloria, c'est une plateforme globale. C'est en je ne sais combien de langues, presque autant que le Sodoma de Frédéric Martel, était présenté ainsi l'enterrement d'un cardinal colombien, López Trujillo, qui avait une très très grande puissance.
Le cardinal colombien Alfonso López Trujillo, président du Conseil pontifical pour la famille, est décédé samedi soir, 19 avril, dans une clinique de Rome à l'âge de 72 ans, des suites d'une infection pulmonaire. Organisateur des rencontres internationales des familles, Jean-Paul II le crée cardinal le 2 février 1983. Il devient président de la conférence épiscopale colombienne de 1987 à 1990. Et le 8 novembre 90, il est nommé président du Conseil pontifical pour la famille par Jean-Paul II. Son décès est une grande perte pour l'épiscopat et l'Église en Colombie, déclare le président de la Conférence épiscopale de Colombie, Mgr Luis Augusto Castro, dans un communiqué. Les obsèques du cardinal auront lieu mercredi à Rome et sa dépouille sera inhumée en l'église Sainte-Anne au Vatican. Après la mort du cardinal López Trujillo, le Sacré Collège compte 195 cardinaux, dont 118 électeurs âgés de moins de 80 ans et 77 non-électeurs.
Personnage considérable, parce qu'il a été une manière de préfet de police de Jean-Paul II en Amérique latine, remettant au pas les figures de la théologie de la libération, les évoque des communautés de base, et puis après, responsable de la politique familiale.
Oui, il fait la guerre contre le communisme, contre les prêtres de gauche, contre les prêtres ouvriers. Peut-être même il contribue à l'assassinat de quelques-uns. C'est ce que disent en tout cas de grands journalistes colombiens aujourd'hui. Et c'est surtout la grande figure de la lutte contre l'homosexualité, la dénonciation du sexe avant le mariage, qui nie l'utilisation du préservatif. Il va faire interdire le préservatif dans beaucoup de pays. Il va essayer de l'empêcher son utilisation en Afrique. Et il va mener une guerre mondiale contre, au fond, la libération des mœurs.
La culture gay, ce serait l'éclipse de Dieu. Mais
le problème, c'est que Alfonso López Trujillo était homosexuel. Lorsque je suis à Medellín, je rencontre les prêtres qui confirment, très nombreux, plusieurs livres sont en préparation sur son homosexualité. Et on a en fait la caricature, au fond, de quelqu'un qui va être très très homophobe et en fait être homosexuel. On a l'appartement où il amenait en fait des prostituées. Les prêtres, sous leur vrai nom, témoignent qu'il leur fournissait des prostituées. Et en plus, il battait ces prostituées. Donc on est dans un cas de schizophrénie absolue inimaginable. Et Alfonso López Trujillo, c'est lui qui a participé et contribué à l'élection de Benoît XVI. C'est l'homme de la défense de la famille. Et c'est un peu comme en France, Tony Anatrella, comme beaucoup de ces cardinaux qui sont à la fois des homophobes très violents et des homosexuels pratiquants.
Tony Anatrella est vilainement. López Trujillo est mort. C'est pour ça que vous avez pu le traiter de fauve, satanique docteur, antéchrist, mais vous croyez au diable, hein, Frédéric Martel.
C'est un satanique docteur, López Trujillo, d'une certaine manière. Et c'est vrai aussi de beaucoup de... Au fond, c'est beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est contradictoire. Pourquoi ils sont homophobes et pourquoi en même temps ils sont gays? Mais en fait, ce n'est pas contradictoire. C'est parce qu'ils sont gays qu'ils sont homophobes, pour se cacher, pour parfois aussi par haine d'eux-mêmes, parce que c'est une homosexualité sublimée, une homosexualité refoulée, une homosexualité d'une autre époque. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce qui est en train d'exploser littéralement aujourd'hui.
Ce qui est en train d'exploser. Alors on va dire quelle position va peut-être prendre dans les jours qui viennent le pape François selon vous. Mais l'effet du livre, maintenant on peut commencer à le mesurer puisqu'il est paru dans beaucoup de langues déjà, 8 dans pas mal de pays. En Colombie, López Trujillo.
En Colombie,
le livre arrive bientôt en Colombie.
Oui, je serai d'ailleurs en Colombie. Je fais une tournée peu partout dans le monde. Bon, vous avez à la fois eu une dénégation officielle du cardinal et deux évêques qui tout de suite ont confirmé l'information. Et les prêtres ont écrit des articles et ils annoncent l'apparition des livres qui porteront les preuves définitives de son homosexualité. Bon, voilà, c'est aussi pour ça que ce livre en Amérique latine a un immense impact. Il y a eu ce matin 5 pages dans Haaretz, le plus grand journal israélien. Il y a la semaine prochaine, je serai en Pologne pour sa sortie, où déjà une dizaine d'articles ont été publiés à la une des journaux.
Oui, mais vous venez d'Italie et là, l'espace est mesuré.
Oui, en fait, ce qui se passe en Italie, ça reste un pays plus complexe. Le livre sort chez Feltrinelli, un très, très gros éditeur, il est partout présent. Hier, j'ai fait une interview qui a été vue 500 000 fois, même moi, j'en revenais pas à propos du livre. Mais ça prouve qu'on est dans un pays qui, effectivement, est dans une forme de déni. Au fond, André Gide disait « Les catholiques n'aiment pas la vérité ». Et je trouve cette phrase, qui dans un échange avec Jacques Maritain, est magnifique parce que c'est la réalité. Ça explique tout. C'est une organisation pour une large part du mensonge, y compris aujourd'hui à Paris, la conférence épiscopale, l'archevêché, le fonctionnement de l'Église de France. Donc voilà, moi je viens faire un livre, je pense, sincère, honnête, je n'attaque pas les gens, je ne les oute pas, pour prendre un mot anglais. Chacun en fera ce qu'il veut, mais j'ai fait mon travail.
Le directeur de la vie commente la prochaine réunion de la conférence épiscopale qui va élire un président, mais ça va se tenir, dit-il, en conclave, secret. Il croit encore que c'est leur affaire, alors que c'est devenu notre problème à nous autres catholiques. J'aimerais qu'on entende quelques réactions de catholiques. En voici deux qui ont été pêchés dans le journal La Croix, toujours.
Évidemment, on peut aussi dire que peu nous importe que la sexualité est du domaine du privé, que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe sous les balles d'Aquin pourpre. Ce serait vrai si l'Église catholique ne faisait pas la promotion d'une norme sexuelle qu'elle considère de révélation divine et devant s'imposer comme telle. On est en droit d'exiger de ces hommes que leurs actes soient en conformité avec ce qu'ils exigent des autres. Leur hypocrisie fait scandale. Mais c'est sans doute le point le plus terrible soulevé par Martel, ce monde du secret et de la honte, a d'autant plus couvert les crimes sexuels qu'il avait lui-même beaucoup à cacher. Le pape François aura-t-il la force et les moyens de faire la lumière? Il y est déterminé, mais rien n'est moins sûr. Christine Pedotti, rédactrice en chef de Témoignages chrétiens.
Quelle va être la réaction, pensez-vous, du pape François à Rome? Vos interlocuteurs sont dans le silence maintenant. Certains d'entre eux, d'ailleurs, vous disaient « Frédéric, c'est pas possible, c'est stupéfiant. L'ancien grand maître des Dominicains dit, mais même si la moitié était vraie. » C'est... Alors, du côté du pape François?
Il n'y a pas eu un seul démenti, il n'y a pas eu un seul droit de réponse. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est vrai. Tout le monde sait que c'est vrai. On peut discuter d'un tel, d'une virgule, d'un mot. Il y a, d'ailleurs, on m'a pointé pour l'instant deux fautes dans le livre. Une faute de date et quelqu'un que j'appelle archevêque alors qu'il est évêque. Vous voyez, enfin... Et j'ajouterai deux phrases. Pardonnez-moi, c'est un peu de la promotion, mais ça dit quelque chose de très fort. Christine Boutin a dit, même si c'est douloureux, j'apprécie la vérité, avec un V majuscule, la vérité, que la vérité vienne à la lumière. Christine Boutin, à propos de ce livre, et une autre, Frigide Barjot, quand même la cofondatrice de la Manif pour tous, elle écrit « Sodoma aide à faire la lumière sur mon Église et à comprendre pourquoi elle se raidit sur la question homosexuelle. »
Mais le pape...
Se raidit, rien que le mot d'ailleurs est fort.
Mais le pape, il est dans une situation...
Mais le pape, il sait, le pape
impossible,
il sait
parce
tout
que...
ça.
Ne pas réformer est extrêmement difficile, réformer est extrêmement difficile parce que dans les deux cas, il perd.
Oui, mais il faut comprendre.
Un grand nombre.
C'est une guerre. Aujourd'hui, il y a une guerre contre François, menée par des cardinaux très homophobes qui l'attaquent parce qu'il est progressiste sur les migrants, sur la peine de mort, mais aussi sur l'homosexualité. Ils considèrent qu'il est gay-friendly, ce qu'il n'est pas toujours. Et le pape, lui, leur répond, vous êtes les rigides qui mènent une double vie. Il les accuse. Il accuse ces cardinaux d'être schizophrènes, d'être hypocrites, c'est-à-dire d'être homosexuels. Le pape nous le dit. Et le pape est aujourd'hui attaqué par eux. C'est très contre-intuitif pour comprendre ce qui se passe, il faut penser à l'envers. Si on est homophobe, c'est qu'on est homosexuel. Et les gay-friendly, les cardinaux qui sont gay-friendly, en général, ce sont les hétérosexuels et les seuls hétérosexuels. Prenez Casper, prenez Marx, prenez Omela à Barcelone, ils sont tellement cool sur la question gay que vous savez que c'est pas un problème pour eux et qu'ils sont sans doute hétérosexuels.
Le cardinal Marx de Munich dit... On est tellement habitué à enseigner la vérité qu'on a du mal à être dans la vérité. Oui, mais ça ne nous dit pas si le pape François, non pas en réaction avec votre livre, mais en cohérence avec la politique de réforme qu'il essaye de maintenir contre vents et marées, risque de prendre une position prochaine.
Dimanche soir, il va parler. On vient d'apprendre qu'il avait fait une interview très importante à une chaîne de télévision espagnole. Il va parler d'homosexualité, on le sait, ça a été confirmé. Et d'autre part, vendredi prochain, le 5 avril, il devrait s'exprimer sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité au Vatican. C'est une conférence dont j'ai d'ailleurs été le premier à l'annoncer, très secrète, mais dont j'ai les lettres de confirmation des invités. On verra ce qui va se passer. Mais encore une fois, si vous voulez, ce fameux mal mystérieux dont parlait Jacques Maritain... peut-être va enfin trouver une explication légale par l'Église.
Vous ne saviez pas, il y a 5 ans, que ces questions vous passionneraient autant?
Oui, moi, mais pourquoi? Parce que c'est pas un livre sur le catholicisme, c'est un livre sur l'homosexualité. Et c'est pour ça que j'avais les codes, j'avais aussi la connaissance, j'avais le réseau, et c'est comme ça que j'ai pu faire ce livre. Et tous ceux qui disent, ils critiquent l'Église, non, je critique une communauté qui est une communauté majoritaire, silencieuse, très importante, je dirais même l'essentiel du collège cardinaliste. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça qu'il fallait que ce livre soit fait par un Français, pas par un Italien, par quelqu'un qui n'était pas vaticaniste et quelqu'un qui avait les codes.
Et par un gay, parce que autrement on aurait dit que c'était un livre homophobe. Merci.
Ce qu'il n'est pas, jamais, pas une seule page.
À vous, Frédéric Martel, Sodoma, une enquête au cœur du Vatican. C'est aux éditions Robert Laffont. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, Audrey Ripouille à la réalisation, Ludovic Asselot à la technique.